Ce matin, je vous propose, en ce premier temps de célébration de l'année, de poursuivre dans cette lettre aux Hébreux. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous reste en tête. On a survolé déjà le chapitre 1 de cette lettre et le chapitre 2. Et on va commencer ce matin le chapitre 3. On aura la semaine prochaine la fin du chapitre 3 et le chapitre 4. Et puis après, on fera une pause dans le survol de cette lettre, dans le parcours au travers de cette lettre, pour s'arrêter sur un personnage de l'Ancien Testament. Et on va regarder un petit peu à la vie de Jacob. Mais ce matin, on poursuit donc encore dans cette lettre aux Hébreux. Et je vous invite tout de suite à la lecture de ces 6 premiers versets du chapitre 3. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. David nous a parlé de sa résolution pour cette année tout à l'heure. Et c'est vrai que le début de chaque année est un moment propice à prendre des résolutions, n'est-ce pas ? Et j'aimerais donc vous poser cette question. Quelles sont vos résolutions à vous pour cette année ? David s'en est cantonné à une, qui est aussi celle de l'année dernière et peut-être celle de l'année d'avant. Et peut-être que parmi les résolutions que vous avez prises cette année, elles ressemblent fortement à celles que vous avez prises l'année dernière, n'est-ce pas ? Peut-être que, après les fêtes, vous avez envie de retrouver une silhouette plus appropriée. Et peut-être qu'en pensant à cela, vous avez une personne en référence dans votre tête. Dire, ah, si je pouvais avoir cette ligne, arriver à ce poids-là peut-être, ce serait chouette pour cette année. Peut-être que pour les garçons, en plus de retrouver la ligne, vous avez peut-être envie de prendre des muscles. Et là aussi, en pensant à cela, vous avez une personne en référence dans votre tête. Vous dites, ah, j'aimerais bien avoir ce corps. Peut-être que vous avez pris des résolutions sur le plan spirituel. Et là encore, vous pensez à un frère ou une sœur, peut-être dans l'église, peut-être dans votre entourage, qui est pour vous un exemple, un modèle de foi, un modèle de relation avec Dieu. Et vous dites, j'aimerais vraiment pouvoir me rapprocher de Dieu cette année et vivre ce que ce frère ou cette sœur vit avec son Seigneur. J'aimerais tellement avoir plus de zèle pour Dieu. Peut-être que vous avez pris des résolutions au niveau des capacités. Cette année, vous aimeriez peut-être être une meilleure maman pour vos enfants. Vous aimeriez peut-être être un meilleur père, peut-être un meilleur ami ou une meilleure amie pour quelqu'un. Peut-être que vous aimeriez faire des progrès dans les dons que Dieu vous a donnés. Vous voudriez faire des progrès peut-être en guitare, en musique, en chant, en couture, en je ne sais quoi d'autre. Mais vous aimeriez progresser dans les capacités. Et là aussi, en pensant à toutes ces choses, vous avez peut-être des personnes qui sont un petit peu comme des personnes références dans votre vie. Une maman, un père, une amie, un musicien, un dessinateur, ou qui sais-je. Ce texte qu'on vient de lire ce matin nous donne un mot d'ordre pour cette année, c'est « considérer Jésus ». Considérez Jésus. Dans le texte, c'est noté « fixez vos pensées sur Jésus ». Cela signifie porter son attention sur Jésus et l'observer de façon continue. En quelque sorte, c'est « concentrez-vous continuellement sur lui ». Considérez continuellement Jésus-Christ. Et je crois qu'on a là l'idée centrale, l'encouragement qui traverse ce passage et un mot d'ordre peut-être qu'on peut faire nôtre pour cette année qui est devant nous. Alors pourquoi considérer Jésus ? L'auteur va donner trois raisons. Et la première, c'est considérer Jésus parce qu'il est le médiateur. Il est un intermédiaire. Et peut-être que ça ne vous parle pas plus que cela. C'est quoi exactement un médiateur ou un intermédiaire ? Alors, j'ai regardé dans la définition du dictionnaire et il nous dit c'est de ce qui intervient entre deux choses pour les mettre en rapport. Et on peut prendre cette image de la navette spatiale. Il est absolument impossible à l'homme de se rendre dans l'espace, d'une part. Et puis, deuxièmement, il est impossible de vivre dans l'espace, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, ce serait impossible à l'homme de se rendre là-bas. Mais cette navette spatiale, grâce à cette navette spatiale, eh bien, l'homme peut se rendre dans l'espace et rester vivant. Cette navette spatiale est en quelque sorte un médiateur entre l'homme et l'espace, un intermédiaire entre l'homme et l'espace. Et je pense que vous voyez où je veux en venir quand Jésus est ce médiateur pour nous. Il est ce médiateur entre Dieu et entre l'homme. C'est lui qui rend la relation possible entre les hommes et entre Dieu. Quelqu'un a dit, c'est lui qui conduit Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Alors vous allez me dire, mais il n'est pas noté dans ce passage que Jésus est un médiateur. Non, ce n'est pas écrit en noir sur blanc, mais ce que l'auteur dit de Jésus nous rappelle cette vérité. L'auteur nous dit qu'il est ce messager. Peut-être dans d'autres versions que vous avez dans vos Bibles, il est question d'apôtre. Jésus est celui qui a conduit Dieu à l'homme. Il est celui qui est le porteur d'un message de la part de Dieu aux hommes. Et quand l'auteur note ça, que Jésus est notre messager, qui est le messager de Dieu pour les hommes, il fait référence, et il dit c'est pourquoi, parce qu'il fait référence à tout ce qu'il a dit déjà dans le chapitre 1 du livre aux Hébreux qu'on a vu précédemment, où il nous rappelle que Jésus est le dernier mot de Dieu, est la dernière personne par qui Dieu nous parle. Dieu nous a parlé par le Fils, Hébreux chapitre 1, verset 2. Jésus est ce messager. Puis Jésus est aussi ce souverain sacrificateur. Ça, on l'a vu dans le chapitre 2 du livre aux Hébreux. Il est ce souverain sacrificateur en ce qu'il conduit les hommes à Dieu. Jésus est celui qui, par son sacrifice, et on l'a rappelé ce matin au travers de ce pain et de ce vin, il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a rendu la vie avec Dieu, nous a amenés à une vie nouvelle. Il est celui qui a restauré et rendu possible la relation des hommes avec Dieu. Il a dit lui-même, « Nul ne vient au Père que par moi », dans Jean chapitre 14, verset 6. Et il est dit, au verset 2, que Jésus est digne de confiance. Dans d'autres versions, vous aurez peut-être, « Il est fidèle, tout comme Moïse l'a été ». Et là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi d'un coup Moïse rentre en jeu ? Pourquoi d'un coup Moïse arrive comme point de comparaison ? Alors, il faut pour cela se replacer dans la peau d'une personne juive à l'époque. Et c'était les destinataires de cette lettre. L'auteur de cette lettre écrivait à une église, une communauté essentiellement composée de personnes juives qui s'étaient converties à Jésus-Christ. Et pour une personne juive, à l'époque, Moïse était certainement l'homme le plus important après Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il avait été miraculeusement protégé par Dieu depuis sa naissance. Quand il était bébé, qu'il a été mis dans ce panier, sur ce Nil, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de son ensevelissement, qui ne rêverait pas d'être enseveli par Dieu. Il a fait des choses miraculeuses. C'est cet homme qui a parlé face à face avec Dieu sur le Sinaï. Il a vu sa gloire. Et quand il est redescendu de cette montagne, il nous est dit dans sa parole que son visage rayonnait, reflétait cette gloire. C'est lui qui a conduit le peuple de Dieu hors d'Égypte. C'est lui qui, sur cette montagne, il a reçu de Dieu lui-même la loi. Et dans le Nouveau Testament, cette loi, quand il en est fait référence, il en est souvent fait référence comme la loi de Moïse. Il est l'auteur des 5 premiers livres de notre Bible, le Pentateuque. C'est lui qui transmettait au peuple de Dieu les paroles de Dieu. C'est lui qui avait ce rôle d'intercesseur. Il intercédait, il priait pour son peuple et il le remettait devant Dieu. C'est lui qui a transmis les plans du tabernacle et de l'arche de l'Alliance. C'est lui qui a conduit son peuple vers la terre promise. Est-ce que vous vous imaginez un tout petit peu la grandeur et l'influence et donc l'importance que pouvait avoir Moïse aux yeux de ce peuple juif ? Rien n'est reproché à Moïse dans ce texte. Dieu lui-même relève sa fidélité dans le livre des Nombres, où il dit « Les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. » Et pourtant, entre Jésus et entre Moïse, deux personnes tout aussi dignes de confiance, qui ont reçu un témoignage de fidélité de la part de Dieu, eh bien, Jésus est celui qu'il faut considérer. L'auteur de la lettre s'est évertué à mettre en avant la supériorité de Christ sur les prophètes dans le chapitre 1. Il s'est évertué à mettre en avant la supériorité de Christ sur les anges. Eh bien, maintenant, il est en train de dire « Christ est supérieur à Moïse. Il est encore plus glorieux que Moïse. » Et il va donner deux autres raisons pour encourager ses lecteurs à considérer Jésus. Considérer Jésus parce qu'il est le médiateur. Considérer Jésus parce qu'il est supérieur à Moïse. Et il va donner deux raisons. Et avant d'afficher la première raison, j'aimerais faire un petit quiz avec vous. Alors, deux questions. Quel est le nom de l'édifice et quel est le nom du constructeur ou de l'architecte de cet édifice? On commence avec ça, c'est le plus facile, hein, je vous préviens. Ok? Et vous savez qui est le constructeur ou l'architecte? J'ai entendu Gustave? Oui, Gustave Eiffel. Alors je vous avais prévenu, c'était le plus facile. Je le savais, mais pour les deux autres que je vous affiche, il y a des choses que je ne savais pas. Donc ça, c'est le nom de l'édifice, l'Arc de Triomphe, tout le monde est d'accord? Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'architecte ou le constructeur? Non? Monsieur Triomphe, ça ne marche pas. Ça a été dit, quelqu'un l'a dit. Voilà, ça a été facile. Hein. Ben, moi non plus, je ne le savais pas. Alors, je vous le dis. Il faut que je retrouve ma ligne. Voilà, c'est Jean-François Chalgrin. Et c'est Napoléon Ier qui avait donné l'ordre de construire cet édifice. Mais c'est l'architecte, le constructeur, c'est Jean-François Chalgrin. Allez, un petit dernier pour la route. Le nom de cet édifice? Le Louvre, ok. Et l'architecte? Ah, attendez, alors attendez. Vas-y. Jean? Non. François Mitterrand? Alors, c'est lui qui a demandé la construction du Louvre. Comment, Anne? Est-ce que tu sais sa nationalité? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais le lire parce que je vais déformer son nom. C'est Léo Mingpei. Léo Mingpei. Ben là encore, je ne le savais pas. Et ben c'est ce que l'auteur de la lettre est en train de nous dire. On connaît bien souvent plus facilement l'édifice que le constructeur. Et pourtant, nous dit l'auteur, le constructeur, l'architecte, devrait être plus honoré que l'édifice lui-même. Souvent, quand mes garçons viennent me voir avec une construction en Lego, c'est vrai que souvent ils font des belles choses et je dis c'est super. Et je les encourage et je les félicite parce que c'est eux qui ont eu l'imagination de créer cela. Et je leur dis bravo. Et l'auteur est en train de dire, mais en fait, pourquoi vous devez considérer Jésus? Parce que si vous considérez Moïse, eh ben, ce serait accorder plus d'honneur à l'édifice qu'à l'architecte lui-même. Moïse faisait partie de la maison de Dieu, du peuple de Dieu. Jésus, lui, il est le constructeur, il est l'architecte au verset 3. C'est lui qui s'est constitué son peuple. C'est lui qui a agi pour délivrer son peuple de l'esclavage. C'est lui qui a pourvu à ses besoins dans le désert. C'est lui qui a transmis la loi à Moïse. C'est lui qui a offert et promis à son peuple la terre promise. Et plus que cela, nous dit le texte, verset 4, il est Dieu, Jésus est Dieu. Donc, le créateur, le constructeur de toutes choses. Pas seulement celui qui a racheté, qui a élu son peuple, mais le constructeur de tout l'univers, de la terre entière. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église, n'est-ce pas ? Jésus est celui qui a créé l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui nous a acquis. C'est lui qui nous a rachetés au prix de son propre sang. C'est lui qui a fait de nous des membres de son peuple. S'attacher à une personne, membre de l'Église de Dieu, ce serait s'attacher et accorder plus d'importance à l'Église même, plutôt qu'au bâtisseur, plutôt qu'à l'architecte, plutôt qu'à Jésus-Christ lui-même. Considérez Jésus le médiateur, considérez Jésus le constructeur. Et l'auteur de la lettre ne s'arrête pas là, et il va utiliser une autre image. qui est celle-ci. Dans certaines entreprises, peut-être pas forcément la vôtre, mais dans certaines entreprises, tous les mois, il y a un prix qui est accordé au meilleur employé du mois. Peut-être parce que ça a été le meilleur commercial, peut-être parce qu'il a rendu le plus de projets. En fait, tout est fait pour encourager ses employés et tout l'accent est mis sur l'employé du mois. Et je crois que je n'ai jamais vu, en tout cas pour moi, une entreprise qui met chaque mois à l'honneur son patron. Pourtant, quand on y réfléchit, c'est lui qui recrute ses employés. C'est lui qui met les moyens dans son entreprise. C'est lui qui fixe les objectifs. C'est lui qui forme aussi ses employés, parfois. Et puis, au fil des années, on se rend compte que certains employés quittent la boîte et celui qui est toujours là, c'est le patron, n'est-ce pas ? Moïse était digne de confiance, fidèle en tant que serviteur parmi le peuple de Dieu. Mais il était au service du bailleur. Il était au service du propriétaire de cette maison. Il transmettait fidèlement les paroles de Dieu à son peuple. Il témoignait des choses qui allaient venir. En fait, il était là pour diriger les regards de son peuple vers ce qui allait venir un jour, c'est-à-dire le Fils. Jésus a dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils, verset 6. C'est lui le propriétaire, le bailleur de son peuple. Aujourd'hui, Moïse n'est plus là, mais Christ demeure à la tête de l'Église qui lui appartient. C'est lui qu'il faut considérer. Il n'est pas seulement le constructeur, le bâtisseur de l'Église, il en est aussi le propriétaire. Et Colossiens chapitre 1, verset 18 nous dit « Il est à la tête de son corps qui est l'Église. » Ce serait donc se tromper que de considérer un membre du peuple de Dieu plutôt que celui qui a établi ce peuple et plutôt que celui à qui ce peuple appartient. Et nous, en quoi est-ce que cela nous concerne aujourd'hui et peut-être en ce début d'année 2022 ? J'aimerais nous laisser trois choses par rapport à ce mot d'ordre de considérer Jésus-Christ. La première est celle-ci, si vous cherchez Dieu, considérez Jésus-Christ. Vous connaissez très certainement l'expression bien connue « Tous les chemins mènent à Rome ». Et pourtant, ce n'est pas une expression que l'on peut adapter à Dieu. Non, tous les chemins ne mènent pas vers Dieu. Le chemin vers Dieu ne se trouve pas en nous-mêmes. Nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons aucune capacité pour nous connecter à Dieu. Et cela a été rappelé ce matin. On était morts spirituellement, il nous est dit dans la Bible. On n'a pas cette capacité à nous redonner la vie. Aucun être humain vivant sur cette terre, aussi important soit-il, n'est ce chemin vers Dieu. Le pape n'est pas le chemin vers Dieu. Bouddha n'est pas le chemin vers Dieu. Gandhi n'est pas le chemin vers Dieu. Nelson Mandela n'est pas le chemin vers Dieu. Aucun responsable, aucun leader dans l'Église, aussi influent soit-il, n'a cette capacité de nous connecter à Dieu, de nous ramener à cette vie spirituelle. Mon implication dans une association ou dans une œuvre, aussi louable soit-elle, n'est pas non plus le chemin vers Dieu. Ce n'est pas toute mon implication dans les Restos du Cœur, peut-être dans l'armée du Salut, dans le Secours catholique. Toutes ces œuvres ne sont pas le chemin vers Dieu. L'Église protestante évangélique de Créée n'est pas le chemin vers Dieu. Si vous recherchez Dieu, considérez Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Celui qui est 100% Dieu, 100% homme, le parfait médiateur entre Dieu et l'homme. Celui qui conduit Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Celui qui a réglé la dette que nous avions tous envers Dieu et qui nous réconcilie avec lui. Paul disait ceci, « C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union, dans l'attachement avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Alors, un mot d'ordre pour cette année, si vous cherchez Dieu, considérez Jésus-Christ. Si vous côtoyez des personnes qui se posent des questions, présentez-leur Jésus-Christ. Autre chose pour nous cette année, si vous voulez entendre et connaître Dieu, considérez Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous révèle Dieu. Jésus a dit lui-même, « Celui qui m'a vu » a vu le Père. Qu'en cette année 2022, nous soyons plus enclins à considérer Christ, à l'écouter, à l'entendre au travers de sa parole. On est constamment sollicité dans notre quotidien à entendre plein de choses. On peut écouter des podcasts sur Internet, on peut lire des blogs, on peut lire des livres, on peut écouter des prédications, on peut lire et entendre plein de choses à propos de Dieu. Mais cela ne remplace jamais la lecture et l'écoute de Dieu au travers de sa parole. En 2022 encore, Jésus-Christ demeure le messager de Dieu, le messager de la grâce de Dieu. Cette grâce qui a agi pour notre conversion et cette grâce qui agit pour notre vie de disciple chaque jour de cette année. Ah oui, je vais certainement encore échouer à bien des reprises dans ma vie chrétienne. Et pourtant, quand j'échoue, ce passage me rappelle que Jésus a pleinement réussi et que Dieu a placé la réussite de Christ sur mon compte. La vie parfaite de Christ m'est acquise. Quand je considère Christ, je considère qui il est, et cela devient aussi un moteur dans ma vie pour lui ressembler toujours plus. Quand je manque d'humilité dans ma vie, je peux considérer l'humilité de Jésus-Christ, et cela m'encourage à plus d'humilité. Quand je considère la générosité de Christ, alors cela m'encourage à plus de générosité. Quand je considère l'amour de Christ, eh bien cela m'encourage à plus d'amour pour Dieu et plus d'amour pour mes frères et sœurs. Quand je considère la vie de prière de Jésus, eh bien cela m'encourage à dépendre toujours plus de mon Père au travers de la prière. Quand je considère l'immensité, cela a été encore rappelé ce matin, de la grâce de Dieu, eh bien cela m'encourage à manifester cette grâce envers mes frères et sœurs, à pardonner. Quand je considère le Père que Dieu est pour moi, eh bien cela m'encourage dans mon rôle de père. Et vous voyez, on est le 9 janvier, et déjà j'ai échoué dans mon rôle de père, pas plus tard que hier. Je me suis impatienté tout au long de la journée, et puis j'ai explosé hier soir. Et je me suis emporté vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Et puis le Seigneur a travaillé mon cœur cette nuit. Et la première chose que j'ai faite ce matin, j'ai demandé pardon. Et je leur ai dit, voilà, vous voyez combien j'ai besoin encore d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Considérez Jésus-Christ. Et puis enfin, en tant que chrétien, il y a parfois des hommes ou des femmes de Dieu qui nous marquent. Et ces personnes sont vraiment grandes. Elles sont parfois des références à nos yeux, comme l'était Moïse pour le peuple juif. Et elles sont tellement grandes, elles ont tellement impacté ou influencé, alors je dis ça au passé, mais c'est peut-être encore le cas au présent. Elles impactent nos vies. Elles nous influencent, je dis ça de manière très positive. Mais au final, nous considérons plus ces personnes que Jésus lui-même. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela, il nous appelle à considérer Jésus plus que toute autre chose, plus que tout être, personne aussi digne de confiance, aussi fidèle qu'elle puisse être. Jésus est celui que nous voulons suivre, celui que nous voulons considérer. Ces personnes qui nous marquent sont avant tout des servantes, des serviteurs au service de Jésus-Christ. Leur but est normalement de nous amener à regarder à Christ et à le considérer. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le créateur de toutes choses, y compris de l'Église. Et il est le propriétaire, celui à qui appartient l'Église. Alors si on ne devait garder qu'une seule résolution pour cette année, considérons Jésus en 2022, parce qu'il est tout suffisant.